Chapitre 46. Se réveiller. Rand se libéra de l'obscurité et réintégra pleinement sa place dans la trame. D'après ce qu'il vit, il déduisit que quelques minutes seulement avaient passé depuis qu'il était dans la grotte. Dans la vallée, dehors, des jours avaient dû s'écouler, et au-delà, dans le monde, certainement des semaines. Rand repoussa Moridine dans la position où il se trouvait lorsqu'ils étaient restés bloqués, l'âme contre l'âme. Empli de pouvoir, un nectar enivrant, Rand abattit Kalandor sur son vieil ami. Moridine réussit à parer, mais d'extrême justesse. Dégainant son couteau, il se mit en garde dans la position typique du combat à deux lames.
« Elan !» dit Rand,
le Saïdin bouillonnant en lui.
« Tu n'as plus aucune importance. Finissons-en !»
Plus d'importance ?
Raya le rejetait. Il pivota sur lui-même et lança le couteau en direction d'Alanna. Les sangs glacés, Nineveh regarda la lame qui fondait sur Alanna en tournant sur elle-même. Bizarrement, le vent n'avait aucun effet sur sa trajectoire.
Non !
Pas après qu'elle eût ramené la sœur à la vie.
Je ne peux pas la perdre maintenant !
Nineveh tenta d'intercepter le couteau, ou au moins de dévier son vol, mais elle fut un peu trop lente. La lame s'enfonça dans la poitrine d'Alanna. Nineveh eut du mal à en croire ses yeux. Ce n'était pas le genre de blessure qu'on soignait avec des herbes, une aiguille et du fil. Le coup avait touché le cœur.
« Rand ! J'ai besoin du pouvoir de l'unique !»
cria l'ancienne sage-dame.
« Tout va bien, »
murmura Alanna. Nineveh sonda son regard. La sœur était lucide.
L'Andilei,
comprit la femme de l'âne. L'herbe qu'elle avait utilisée pour redonner des forces à Alanna.
Je l'ai tirée de son hébétude. La décoction l'a réveillée. Je peux le libérer.
Sur ces mots, les yeux de la sœur se voilèrent. Nineveh tourna la tête vers les duellistes. Avec une sincère tristesse, Rand regarda la défunte. Mais elle ne vit pas de colère dans ses yeux. Juste avant qu'il subisse les conséquences de sa mort, Alanna l'avait libéré du lien. Moridine se campa face à Rand, un autre couteau dans sa main gauche. Le dragon leva Kalandor. Moridine lâcha son épée et poignarda sa propre main droite. Rand sursauta, puis lâcha Kalandor comme si sa main souffrait de l'étrange attaque du rejeté. L'épée cessa de scintiller et tomba sur le sol. Dans son combat contre Tueur, Perrine se déchaînait comme jamais. Là, il n'essayait plus de faire la différence entre le loup et l'homme. Enfin, il laissait sortir tout ce qu'il y avait en lui, sa fureur contre Tueur, le chagrin d'avoir perdu les siens, tout ça sans rien garder pour lui. Cette tension qui avait grandi en lui pendant des mois sans que nul ne s'en aperçoive. Oui, il laissait tout sortir. Lumière, il ne retenait rien. Comme cette terrible nuit où il avait tué les capes blanches. Depuis, il avait enfermé ses émotions dans une main de fer, en s'emprisonnant aussi lui-même. Exactement comme Maître Luhan l'avait dit. Dans cet instant figé au cœur du temps, il s'en apercevait. Le gentil Perrine, toujours effrayé de faire du mal à quelqu'un. Un forgeron ayant appris à se contrôler. Dans tout ce qu'il avait traversé, il s'était rarement autorisé à frapper avec toute sa force. En ce jour, il retirait sa laisse au loup, car il n'aurait jamais dû en avoir une. La tempête s'harmonisait à sa fureur, et il n'essayait pas de la contenir. Pourquoi l'aurait-il fait? Elle reflétait ses émotions à la perfection. Chaque coup de son marteau était un roulement de tonnerre, et des éclairs jaillissaient de ses yeux. Autour de lui, des loups hurlaient avec le vent. Tueur tentait de résister. Bondissant, se décalant et frappant, il ne parvenait jamais à surprendre son adversaire. Perrine, lui, sautait comme un loup puis frappait comme un homme. Un orage de chair aussi violent que la tempête. De la folie dans les yeux, Tueur érigea un bouclier qu'il essaya de placer entre Perrine et lui. Le jeune homme attaqua, sans réfléchir, car il n'écoutait plus que son instinct. Rugissant, il martela de coups le bouclier de son adversaire. Martelé, oui. Comme une barre de fer récalcitrante, pour la modeler selon sa volonté, sa rage et sa haine. Son dernier coup arracha le bouclier des mains de Tueur, l'envoyant voler dans les airs. Déséquilibré, l'homme s'écrasa sur le sol et roula sur lui-même, le souffle coupé. Puis il s'immobilisa au milieu du champ de bataille, alors que des silhouettes floues ferraillaient et crevaient, pour de bon dans le monde réel. Après un regard paniqué pour Perrine, Tueur se volatilisa. Acharné à le suivre, le jeune homme retourna dans le monde normal, au cœur de la véritable bataille, où des aïels et des trollocs s'étripaient. Ici, les vents étaient incroyablement puissants. Au-dessus du mont Chayolgoul, on eût dit un doigt crochu tendu vers le ciel, des nuages noirs et blancs bouillonnaient. Les aïels remarquèrent à peine l'apparition de Perrine. Partout, des cadavres de trollocs et d'humains gisaient en tas, et l'air empestait la mort. Naguère poussiéreux, le sol n'était plus qu'un bourbier rougeâtre. Zébrant l'air avec son long couteau, Tueur se fraya un chemin parmi un groupe d'aïels. Sans jamais regarder derrière lui, car il ne semblait pas se douter que son adversaire l'avait suivi. Une nouvelle horde de créatures de ténèbres déboula d'une étrange brume argentée. Leur peau, remarqua Perrine, était cloquée, comme si on les avait mis à bouillir, et leurs yeux se révélaient uniformément blancs. Les ignorant, le mari de Fail se lança à la poursuite de Tueur.
« Jeune taureau, les frères des ténèbres sont ici, nous les affrontons. »
Un message des loups, les chiens des ténèbres. Les loups détestaient l'engeance du démon. Pour tuer un Myrdraal, une meute entière était prête à mourir. Mais ils craignaient les chiens des ténèbres. Perrine regarda autour de lui pour repérer ces monstres. Les hommes ordinaires ne pouvaient pas les combattre, parce que leur simple bave était mortelle pour eux. Partout, les humains se débandaient devant ces créatures noires géantes. La horde sauvage. De fait, ces chiens étaient énormes. Des dizaines de loups noirs corrompus fondaient sur les domanies et les terriens, les renversant comme des quilles ou des poupées de chiffon. Les loups attaquaient ces monstres, mais ça ne servait à rien. Hurlant de douleur, ils mouraient les uns après les autres. Perrine mêla son cri au leur, un hurlement de rage en écho à leur chant de mort. Pour l'instant, il ne pouvait pas les aider, parce que son instinct et ses passions le dominaient. Tueur, il devait le vaincre. S'il ne l'arrêtait pas, ce type retournerait dans le monde des rêves et tuerait Rand. Perrine courut au milieu des combattants, sa proie pour seul objectif. À cause du moment de confusion du jeune homme, Tueur avait pris de l'avance, mais depuis, il avait un peu ralenti. Visiblement, il n'avait toujours pas compris que Perrine était capable de sortir à volonté du monde des rêves. D'ailleurs, Tueur s'arrêta pour observer la bataille. Là, il vit enfin Perrine et écarquilla les yeux. Avec le vacarme, le jeune homme n'entendit pas les mots de son adversaire, mais il les lut sur ses lèvres.
« Non, non, c'est impossible !»« Tu te trompes. Je peux te suivre à présent, où que tu ailles. C'est une chasse, et te voilà devenu le gibier. »
Tueur se volatilisa. Aussitôt, Perrine repassa dans le monde des rêves. Les guerriers et les monstres qui se battaient autour de lui redevinrent de vagues silhouettes qui se désintégraient puis se reconstituaient. Quand il vit son bourreau, Tueur cria de terreur. Puis il se décala de nouveau dans le monde réel. Perrine l'imita. La piste de sa proie, il pouvait la sentir désormais. Poisseuse de sueur et puant la panique. Du rêve au réel, du réel au rêve. Dans le songe, Perrine courait à quatre pattes, parce qu'il était jeune taureau. Dans la réalité, il redevenait un homme armé d'un marteau. Se décalant sans cesse d'un monde à l'autre, il ne laissait pas une seconde de répit à Tueur. Lorsqu'il déboulait dans une mêlée sauvage, il retournait dans le rêve pour traverser ce qui n'était plus que de vagues formes faites de sable et de poussière. Puis il revenait dans le réel pour ne pas perdre la piste. Bientôt, les décalages furent si fréquents qu'il eut l'impression de changer de monde à chaque battement de cœur.
Une pulsation.
Marteau levé, Perrine sauta d'une petite butte, son adversaire pas très loin devant lui.
Une autre pulsation.
Jeune taureau rugit pour rallier la meute.
Encore une autre.
Perrine n'était plus bien loin à présent. Quelques pas de retard. L'odeur de tueur lui agressait les narines.
Une de plus.
Les esprits des loups apparurent autour de jeune taureau, hurlant à la mort dans l'excitation de la chasse. Aucune proie, jamais, n'avait mérité tant de haine. Car aucune n'avait fait tant de dégâts. Et nul homme n'avait été craint à ce point.
« Une nouvelle !»
Tueur trébucha. En tombant, par réflexe, il se décala dans le rêve des loups.
Une autre encore.
Perrine abattit Mahaleinir, son arme décorée d'un loup en plein saut.
Et toujours une nouvelle.
Jeune taureau sauta à la gorge du meurtrier de tant de ses frères. Bien sûr, tueur se décala.
Et encore une.
Le marteau toucha quelque chose. Une bizarrerie liée à ce lieu et à ce moment propulsa les deux hommes dans une farandole de décalage entre les deux mondes. De l'un à l'autre, sans interruption, les pensées et les instants plus fugitifs que des éclairs.
Décalage, décalage, décalage.
Autour d'eux, des hommes mouraient, dans leur vrai corps ou sous forme de spectre. Dans leur monde, certes, mais aussi dans le reflet sans substance d'une infinité d'autres réalités. Des guerriers bizarrement vêtus et équipés luttaient contre des monstres de toutes les formes et de toutes les tailles. Par moments, les Aiel devenaient des Séanchaniens, qui eux-mêmes se transformaient en êtres qui reprenaient un peu des deux peuples, avec des yeux clairs, des lances, mais des aumes en forme de tête d'insecte. Dans tous ces moments et dans tous ces lieux, le marteau de Perrine fit mouche, et les crocs de jeunes taureaux s'enfoncèrent dans la gorge de tueur. Le loup sentit le goût du sang dans sa gueule, et l'homme capta les vibrations du manche de son arme, alors qu'il entendait des os craquer. Les mondes explosèrent comme la foudre dans le ciel. Tout s'écroula, trembla, puis se reforma. Le cadavre au crâne fracassé de tueur à ses pieds, Perrine se retrouva parmi les rochers, dans la vallée de Takandar. Encore sous le coup de l'excitation du chasseur, il haletait. C'était fini. Surpris de découvrir que des aïels l'entouraient, Perrine plissa le front à leur intention.
« Que faites-vous ici ?»
Une promise éclata de rire.
« Tu donnais l'impression d'exécuter une très grande danse, Perrine Aibara. On apprend beaucoup de choses en observant les guerriers comme toi, et en les suivant, car ce sont eux qui prennent le plus de plaisir. »
Perrine eut un sourire sinistre. À voir ce qui se passait alentour, les choses ne tournaient pas très bien pour son camp. Partout, les chiens des ténèbres déchiquetaient les défenseurs. Le chemin de la fosse n'était plus défendu.
« Qui commande ici ?»
demanda le jeune seigneur.
« Plus personne maintenant. »
répondit la promise. Perrine ignorait son nom.
Au début, c'était Rodel Ithurald, puis Darlene Cisnera, mais son poste de commandement a été pris par des Drakkar. Depuis des heures, je n'ai vu ni Aes Sedai, ni chef de tribu.
La promise ne cachait pas son pessimisme. Même les indomptables Aiel baissaient les bras. Un nouvel examen du champ de bataille apprit à Perrine que les derniers guerriers du désert luttaient là où ils étaient, souvent par petits groupes, avec l'intention évidente de faire autant de mal que possible à l'ennemi avant de succomber. Alors qu'ils étaient légions au début, les loups ne se comptaient plus que par dizaines, et ils n'émettaient que des images de peur et de douleur. Et Perrine ne savait toujours pas ce que signifiait l'apparition des Trollocs au visage cloqué. Une chose semblait acquise, la bataille était terminée, et le camp de la lumière avait perdu. Les chiens des ténèbres s'acharnaient sur les fidèles du dragon, le dernier groupe encore actif venant de se débander. Les rares fugitifs furent traqués par un des chiens, qui les renversa comme des quilles et entreprit d'en dévorer un. Le contact de sa bave suffit à tuer les autres, dont l'agonie fut brève mais terrifiante. Perrine posa son marteau, s'agenouilla, retira son manteau à tueur, s'enveloppa les mains avec, puis reprit son arme.
« Ne les laissez pas vous cracher dessus »
dit-il.
« Leur bave est empoisonnée !»
Les aïels acquiescèrent. Ceux qui avaient les mains nues les protégèrent avec les moyens du bord. Dans leur odeur, Perrine reconnut de la détermination mêlée à de la résignation. S'il n'y avait pas d'autre issue, les guerriers du désert étaient capables d'aller à la mort en riant. Les gens des terres mouillées les croyaient fous, mais Perrine ne marchait pas là-dedans. Les aïels étaient parfaitement sains d'esprit. S'ils ne craignaient pas la mort, ils n'étaient pas pressés de la rencontrer.
« Touchez-moi tous en même temps !»
dit le jeune seigneur. Quand le contact fut établi, il se décala dans le rêve des loups. Emmener tant de personnes lui coûta un gros effort, comme pour plier une barre de fer, mais il réussit. Une fois dans la vallée, il se décala de nouveau au sommet du chemin, devant la fosse de la perdition, où les esprits des loups, des centaines, attendaient en silence. Là, Perrine ramena ses aïels dans le monde réel, à l'endroit idéal pour protéger Rand des chiens des ténèbres. Sur le chemin, la horde sauvage avançait déjà, la haine faisant briller les yeux de ses membres.
« Nous nous battrons ici !»
annonça Perrine.
« En espérant que des renforts nous rejoindront !»
Oui, nous tiendrons,
dit un grand aïeul au front ceint par un bandeau orné de l'emblème du dragon réincarné.
Et si nous échouons,
ajouta un autre guerrier.
Nous réveillons du rêve. Nous aurons au moins abreuvé la terre avec notre sang. Quant à nos corps, ils serviront d'engrais aux plantes qui poussent ici désormais.
Perrine avait à peine remarqué les végétaux qui pointaient fièrement la tête un peu partout dans la vallée. Des pousses petites mais fortes. La preuve que Rand continuait à se battre. Les chiens des ténèbres approchaient, la queue basse, les oreilles en berne et les crocs brillants comme une lame d'épée souillée de sang. Mais qu'entendait donc Perrine, malgré les rugissements du vent? Un son très doux et très lointain. Si doux qu'il n'aurait pas dû le capter. Pourtant, les clameurs de la guerre ne parvenaient pas à l'étouffer.
« Ce son, je le connais, »
dit le jeune seigneur.
« Un son ?»
demanda la promise sans nom.
« Quel son ? Les cris des loups ?»«
Non, »
répondit Perrine, alors que les chiens des ténèbres accéléraient le pas.
« Le corps de Valère !»
Les héros seraient bientôt là. Mais sur quel champ de bataille interviendraient-ils ? Ici, il ne fallait s'attendre à aucun soulagement, sauf si...
« Conduis-nous, jeune taureau !»
Qui avait jamais dit que les héros étaient exclusivement humains ? Un cri retentit, faisant écho au corps. Balayant la vallée du regard, Perrine vit qu'une multitude de loups s'y était matérialisée. Des bêtes géantes, au moins la taille des chiens, à l'aura scintillante. Les esprits des loups venus se battre ici et qu'il avait payé de leur vie. À présent, ils brûlaient d'envie de prendre leur revanche. Le corps les avait ramenés. Perrine cria de plaisir, puis il chargea les chiens des ténèbres. L'heure de la dernière chasse avait vraiment sonné. Une nouvelle fois, Matt confia Oliver au héros. Perché sur le cheval de Noal, le gamin, l'air princier, souriait d'aise, tandis que les revenants chargeaient les trolloques pour leur interdire d'approcher du chemin. Sur un cheval emprunté à un défenseur théarien, le jeune flambeur galopa pour rejoindre Perrine. Il devait être avec la horde de loups, bien entendu. S'il ignorait comment ces fauves scintillants étaient arrivés sur le champ de bataille, Matt n'allait sûrement pas s'en plaindre. Les chiens, en revanche, avaient d'excellentes raisons de protester, car ils risquaient d'y laisser des poils. Matt passa devant quelques aïeuls qui combattaient un chien, mais les pauvres n'avaient pas une chance. Oh, il touchait durement la créature, mais elle s'en fichait, comme si elle était faite d'obscurité et non de chair. Féroce, elle se permettait même de contre-attaquer.
Par le fichu sang et les maudites cendres !
Les armes des aïeuls ne semblaient pas en mesure d'entailler la peau de ces monstres. Matt continua à foncer en esquivant les tentacules de brume argentée qui se répandaient partout. Lumière. Ce brouillard n'était plus très loin de l'entrée du chemin. Gagnant de la vitesse, il absorbait des aïeuls, des trolloques et des chiens. Histoire de ne pas faire de jaloux, sans doute.
Le voilà,
pensa Matt, dès qu'il eut repéré un type assez fou pour affronter les chiens des ténèbres. Abattant son marteau sur la tête d'un fauve, Perrine lui fit proprement éclater. Chaque fois qu'il levait son arme, une traînée de fumée la suivait. Et le chien des ténèbres, bizarrement, ne se releva pas. Dès qu'il aperçut Matt, le mari de Fail écarquilla les yeux.
« Matt, que fiches-tu ici ?»«
Je viens t'aider, mon gars, contre la voix de la raison. »«
Tu ne peux pas affronter les chiens !»
fit Perrine, alors que le jeune flambeur venait de placer sa monture à côté de la sienne.
« Moi, oui, comme tous les autres membres de la dernière chasse. »
Perrine inclina la tête, puis tendit l'oreille dans la direction d'où venait la sonnerie de corps.
« Bien vu, »
fit Matt.
« Ce n'est pas moi qui souffle dedans. Ce maudit fardeau est passé entre les mains de quelqu'un qui semble en être ravi. »«
Ce n'est pas ça, Matt. »
Perrine fit approcher sa monture et prit son ami par le bras.
« Ma femme, mon vieux, c'est elle qui a le corps. »
Matt baissa la tête.
« Le gamin a dit... Perrine. Fail s'est laissé poursuivre par les trolloques pour qu'Olver puisse s'enfuir avec le corps. »«
Dans ce cas, elle doit être encore vivante. »«
Bien sûr. Oui, c'est tout à fait possible. »
admit Matt. Qu'aurait-il pu dire d'autre à un ami ?«
Perrine, tu dois savoir quelque chose. Padan Fain est ici. »«
Fain ? Où ça ?»«
Dans la brume. Il est venu avec Machadar. Ne me demande pas comment il s'y est pris. » Surtout, ne le laisse pas te toucher.
Moi aussi j'étais à Shadar Logoth, Matt. Et j'ai un compte à régler avec Fain.
Et moi non, je...
Les yeux ronds, Perrine fixa soudain le torse de son ami. Une volute du brouillard argenté de Machadar avait transpercé de part en part la poitrine du jeune flambeur. Matt baissa la tête, sursauta, puis glissa de sa selle.